France Inter.
La bonne journée avec Nanina Kadoukadi, Lisa de Boitier, Emma Beaujean, Tom Paduti, Paul Delas.
Bonjour.
Tanguy Passureau, Daniel Morin, nous invitons donc Pierre Arditi et Nicolas
Bravo.
Bande originale.
Ils eux-mêmes. Ça, je dois dire que c'est.
On vous applaudit. On vous salue, Pierre. On vous salue, Nicolas. Ravi de vous accueillir pour parler de cette pièce signée Alexis Macquart qu'on a eu la chance de voir, de vous applaudir au théâtre Montparnasse. C'était même la première. Alors, je ne sais pas comment les autres soirs se sont passés. Il y a quelque chose de magique dans une première. Non, mais une première, c'est particulier parce qu'on a des potes, des amis, sa famille. C'est la première fois qu'on est dans le rythme des rires du public.
Ouais.
C'est ça?
Oui. Bon, on découvre la réponse à un certain nombre de semaines de travail. On a enfin le quatrième mur.
Est-ce que vous réglez les choses ensuite depuis une semaine que vous l'avez joué maintenant? Est-ce que le tempo a changé? Est-ce que justement ce match entre vous et le public, ce rythme a changé ou pas?
Bah ça change forcément, parce que le soir de la première, il y a une tension un peu plus forte. On ne sait pas à quoi on s'attend, quoi. Voilà.
C'est pas le trac, c'est une tension.
Bah, en ce qui me concerne, non, mais je crois que Nicolas non plus. Enfin, il y a une appréhension, voilà.
Ouais.
Après, c'est plus un problème de trac. C'est petit à petit, on élargit le jeu, les choses se détendent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension quand il doit y en avoir. Et c'est très prétentieux, en fait, ce que je vais dire, mais c'est normal. Après tout, je suis très prétentieux. Mm-hmm. Je suis beaucoup trop prétentieux, d'ailleurs, pour être un vampire. Mais enfin, quand même, c'est-à-dire que. Enfin, en ce qui me concerne, très jeune, mes jambes
c'est
tremblaient.
C'est le public de la pièce, pardon, je précise, parce que je voudrais pas croire que les gens croient comme c'est la journée de la santé mentale, que tout d'un coup, il part dans les lèvres en disant je suis trop prétentieux pour être un vampire. On dit, tiens, qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans la pièce.
C'est dans la pièce.
Merci, Nicolas.
Ça me fait plaisir qu'il traduit ce que je dis, parce qu'on sait jamais. Voilà. Donc, quand j'étais très jeune, j'avais évidemment une trouille terrible. J'ai toujours une trouille terrible, d'ailleurs, mais au départ, j'avais la trouille du public. J'avais la trouille de ce qui était en face de moi. Et maintenant, c'est pas deux...
C'est la trouille de vos partenaires.
C'est de moi. Est-ce que je vais être à la hauteur de ce qu'ils sont venus voir?
Pour ne pas décevoir.
Donc, oui.
Okay. Voilà. Bah, en tout cas, on peut vous rassurer, c'est loin d'être le cas.
Ça, ici, c'est pas notre souci.
C'est une soirée...
Ouais, non, je vois bien que c'est pas votre souci. Hein. Je vois bien ce qui vous intéresse.
Non, c'est pas ça.
Je me souviendrai de presque tout.
On dirait ma femme, quand je fais ça,
elle me tape dessus.
L'histoire de deux papas. L'histoire de deux fils, tout ça résumé en trois personnages portés par vous deux et par un jeune homme qui s'appelle Miguel van der Linden, j'espère que je prononce bien,
c'est ça.
Et que je vois pour la première fois au théâtre, mais c'est trois générations en tout cas.
Voilà, parce que deux papas, deux fils, c'est pas...
Oui, il y a le grand-père, le père et le fils, mais ils sont, donc ça fait deux papas, deux fils.
C'est pour le mariage pour tous, quoi.
Voilà, c'était pas ce que je cherchais. Tout ça mise en scène par Julien Boisselier, on va en parler jusqu'à midi et demi, parce qu'elle est drôle, elle est touchante, elle est émouvante, elle est intelligente cette pièce. Et elle fait du bien. Petit tour de table parce qu'il y a des problèmes de communication avec les parents. Est-ce que on a tous eu un moment d'incompréhension avec son papa ou sa maman? Ça a été le cas, Lisa Delmoitié. Est-ce qu'il y a eu des incompréhensions?
Bien sûr, dans mes choix professionnels. Et tous les jours, en écoutant mes chroniques, je pense que mes parents se disent, mais qu'est-ce qu'on a fait?
Tes parents savent que tu es là?
Ouais, ils sont au courant. Ils me recherchent. Incompréhension de ma carrière.
Emma, bonjour. Ton papa que je connais, avec qui j'ai bossé à RTL.
C'est vrai, on l'embrasse. Je crois qu'on se comprend. On se comprend mieux avec mes parents depuis que je vis plus chez eux. Ouais. Et on se comprend bien, même à distance. Des fois, je dis rien et on se comprend, quoi.
Donc, moins vous voyez, mieux vous portez.
Voilà.
Je veux pas me mettre la merde.
Pas de bol.
Leïla ?
Non, moi, j'ai une chance folle.
Zéro problème de communication ou d'incompréhension au bout de « tu peux pas me comprendre, on n'est pas sur la même planète ».
Non, vraiment pas.
Ok,
vraiment.
Tant mieux. Tom ?
Moi, pareil, on communique beaucoup avec mes parents. Il y a une fille que j'ai rencontrée qui m'a dit que c'était red flag d'appeler sa mère tous les jours.
Non.
Ben,
c'est la fille qui est red flag.
Ouais. Red flag. flag.
Oui, oui, drapeau rouge.
Oui, je vais peut-être pas rester là. Je ne savais pas qu'on parlait une langue étrangère.
Tanguy Pastoureau,
c'est pas radical, quoi. Moi, j'ai été élevé dans la lande bretonne jusqu'à l'âge de 20 ans par des belettes, et donc j'ai appris à parler à partir de 21.
T'avais que des problèmes de
comprendre. J'ai communiqué tard avec mes parents, qui, du coup, tout s'est bien passé parce que ma crise d'ado était passée depuis longtemps.
Ok. Daniel.
Oh, tu te doutes qu'il y a eu quelques soucis avec la famille. Mon enfance était une grande interrogation. Et,
les voilà, incarcérations, tout ça.
Ouais, tout ça, la police. Et...
Au-delà.
Moi, c'est sûr, je ne partage pas toujours leurs angoisses et le pessimisme. Il y a mon père qui me
bah
dit.
Bah non, moi, je les comprends.
Par exemple, ouais, c'est ça. Mais qui me dit donc tu laisses ta voiture regarder dans la rue? Bah oui.
Ah oui.
Ouais, donc s'il y a par exemple un moteur d'avion qui tombe et qui l'écrase, bah ouais, je vais prendre le risque. Ouais. Donc voilà, je n'ai pas toujours le même niveau d'angoisse.
Ah oui, tiens. Et moi, j'avais une peur bleue de mes parents, en fait. Peur de dire trop de ce qui se passait dans ma vie. Ah ouais. Non, mais vraiment dans les périodes, tu sais, où tu prends la voiture, tu empruntes, parce que tu viens d'avoir ton permis, tu empruntes la voiture, et puis tu la rayes. Et donc tu veux pas dire.
Ouais.
Et donc, les problèmes de communication étaient plus sur le regard, le jugement, que est-ce qu'on peut tout se dire sur les histoires d'amour, ouais, sur la crainte de l'avenir, de qu'est-ce que je vais devenir, et ainsi de suite. Mais c'était...
La peur de dire la vérité.
Ouais, la peur de dire la vérité et la peur de décevoir, oui, aussi. La peur du jugement, oui, des parents. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans la pièce, parce que les rapports ne sont pas simples entre chaque papa et chaque enfant. Mm. Peut-être plus simple entre le grand-père et le petit-fils, en,
oui,
tout cas quand on saute une génération.
Mm.
Mais quand on est immédiatement, ouais, quand on est immédiatement le fils d'eux ou le père d'eux, il, oui, y a quand même des problèmes de que ce soit chez le jeune comme chez le plus adulte.
C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais le grand-père, en principe, avec les petits-enfants, ont tous les avantages et aucun des inconvénients des parents. Mmh. Voilà.
Oui, parce qu'ils n'interdisent...
Je vous entends parler de vos parents,
ouais,
avec effroi. Parce que
vous,
moi,
vous avez eu un problème ou pas avec vos parents, déjà?
Non seulement j'ai pas eu de problème, mais je l'ai dit déjà 20 fois, ma mère a fait l'homme et mon père a fait l'artiste. Donc j'ai eu deux rois et reines dans ma vie, donc toute ma vie je les regrette et je n'ai eu aucun problème
de communication avec vos parents.
Non, ôtez ce mot de votre bouche.
Pourquoi ?
On n'a pas de communication avec ses parents. On les aime, on les aime pas, on a un rapport. La communication, il y en a. C'est un mot qui ne signifie absolument plus rien.
Pardon,
on n'a jamais
aussi
pièce... peu communiqué en parlant à ce point-là.
Non, mais je veux dire par là que dans la pièce, l'un des pères découvre certaines choses de son fils, oui, l'un, oui, des fils découvre certaines choses de son père. Oui. Si c'est pas de la communication, c'est de l'échange, de la transmission,
oui,
appelez
voilà,
ça comme vous voulez.
Mieux.
Mais
communication.
Okay. Pardon, on pourrait faire un petit bilan dans le communication. Non, red flag. Donc non.
Alors petite... voilà. Ouais. Si vous Nicolas... en avez d'autres, vous me prenez, oui, je les relèverai.
Nicolas Briançon, vous avez vos parents?
Oh là là.
Vous avez vu l'état dans lequel ce garçon.
Vu ce que ça donne,
c'est très très étrange. C'était à la fois aimant, respectueux. Je crois que finalement. Communication très compliquée avec ma mère qui essayait, je crois, de parler, mais qui voulait jamais parler des choses importantes. Qui restait tout le temps dans des choses un peu
surface, ouais,
extérieures, donc j'avais, ouais, impossibilité jusqu'à
avec le côté je veux pas être intrusive aussi peut-être
à 94 ans,
ouais,
et je, voilà, mais jusqu'à 94 ans c'est resté une sorte de mystère bloqué dans son
rôle de maman,
ouais. Et mon père qui est mort quand j'étais très jeune, mon père était un magistrat un peu austère. Enfin, d'apparence, et il n'y avait pas énormément de communication, mais je dois dire qu'il y a quand même eu trois gestes dans sa vie qui ont déterminé toute ma vie. Donc je pense qu'il y avait une communication secrète, d'une certaine façon. Mmh. C'est-à-dire qu'il m'a...
Un exemple ?
Il m'a emmené voir La Flûte Enchantée, le film de Bergman, qui a décidé de ma carrière, vraiment. C'est parce que j'ai vu ce film que j'ai... tout d'un coup débarqué dans le théâtre. Et,
ouais,
et il m'a donné un jour un livre de Michel Déon, c'est le seul livre qui d'un roman de Michel Déon, me disant tu dois lire ça. Et des années après, je suis devenu le gendre de Michel Déon, qui a été comme moi, comme un substitut de mon père. Donc c'était comme s'il avait fait créer une sorte de passage de relais, ouais, avec le temps. Et last but not the least, j'ai découvert une demi-sœur très longtemps après sa mort, qui est apparue dans ma vie et qui a joué un rôle très important dans ma vie et surtout vis-à-vis de mon enfant. Et donc voilà, c'était...
C'est touchant. Merci pour cette...
Voilà. Mais
cette
c'est des communications,
oui,
qui ne se disaient pas, qui ne se pratiquaient
bien
pas,
sûr,
mais qui...
Sûr.
mais qui ont existé.
Mais qui nous construisent.
Bien sûr.
On est fait de tout ça, et on est fait aussi d'imbroglio, de non-dit. Il y a dans cette pièce des répliques qui sont d'une violence inouïe, mais qui font extrêmement rire. Il y a des rapports très tendus entre un père star, acteur, et c'est même avec cette table de maquillage, je sais pas si elle a un nom d'ailleurs, avec toutes ces ampoules autour des miroirs, comme on voit dans les films hollywoodiens, qui ouvrent et qui clôt d'ailleurs magistralement la mise en scène de Julien Boisselier. Mais ce père, donc star de théâtre, de cinéma, clairement avec une énorme renommée, et peut-être une surcommunication à l'extérieur et une absence d'échange à l'intérieur de sa famille. On sent que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas parlé avec son fils, qui lui est un auteur en manque d'inspiration. C'est même plus le problème.
Un manque de certitude, je dirais, peut-être davantage encore que d'inspiration. Je crois qu'il n'a aucune confiance en lui. Il est écrasé vraisemblablement par
cette image. Il passe sa journée en peignoir et
il a renoncé, quoi. C'est un renoncement.
Il flotte.
Oui. Et puis, il y a le fils qui lui est dans la fleur de l'âge, avec sa vingtaine d'années, avec zéro souci et même une ouverture d'esprit et une facilité à parler aux uns et aux autres et à s'intéresser finalement des trois. C'est peut-être lui qui s'intéresse le plus aux deux autres que l'inverse. On en parle parce qu'on a adoré cette pièce. L'écriture d'Alexis Macquart, elle est dingue, tellement bon. Elle est rythmée, drôle, intelligente, et on passe pas aussi bien par les rires que par les larmes, avec beaucoup d'émotion, et cette mise en scène de Julien Boisselier. Mais d'abord, voici Hold de la fan de nos invités, Pierre Arditi et Nicolas Boulan.
Je suis fan de Pierre Arditi. Je suis allé sur internet pour connaître toute votre vie. J'ai dû me tromper dans l'orthographe en mettant Arditi. Je suis tombé sur un extraterrestre qui fait les peaux sexy. Je suis fan de Nicolas Briançon. Là je me suis concentré sur l'ordi, j'ai bien tapé Briançon. Et ben c'est fou, il y a une ville qui s'appelle comme vous, pile poil. Mais bon, moi je suis retourné voir les photos d'Iti à poil. Et vous êtes là pour Je me souviens. Je me souviens.
Vrai.
Ah ben mince, je sais plus. En tout cas, vous êtes là et ça c'est trop youpi. Est-ce que ça vous intéresse des photos coquines d'Iti? Je suis fan de vous, je vous demande pardon aussi, car j'ai découvert un truc chez moi que j'avais pas compris. Ma passion pour les extraterrestres hyper sexy. J'ai même téléchargé sur iPhone l'appli E.T. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens des choses louches pour un extraterrestre sexy. Vous me jugez pas, me jugez pas trop durement, car vous le verriez dans sa lingerie. Oh, 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 oh. Mais je fais surpris en m'attendant cette appli de voir que d'autres gens la suivent aussi. Bien sûr Daniel, bien sûr Tanguy et bien sûr Nagui, mais pas que y a des gens qui ont du talent aussi. Arditi, 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 Arditi et Nico Briançon. Arditi, 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 téléphone maison. Oui, je suis fan de vous, mais de la pièce aussi. J'espère vous la jurer dans le Nord pour voir Pierre Arditi. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous, avec lui qui c'est donc la bande originale.
En featuring Emma Beaujean.
Bravo.
Et au-delà.
C'est absolument consternant.
Je ne sais pas.
C'est pathétique.
Vous les flattez.
Putain, pourvu que je ne finisse pas comme ça.
Hold de Lave sur scène, le premier
balèze, avril. Le camarade.
Folie Bergère. Ah oui, il est bon, il est bon. Hôtel des Matourins. C'est à 21.
Des Matourins.
C'est une nouvelle
salle.
C'est dans les fouilles.
Je comprends bien. Appelez-moi Arpini.
Pierre Arditi, Nicolas Briançon et donc Miguel van der Nieden dans cette pièce d'histoire. En effet, je reviens à ce gimmick, ce sont deux papas et deux fils sur trois générations. générations, grand-père, père et fils, et tous ont des problèmes de communication. Ça commence d'ailleurs par, dans un premier temps, l'annonce faite de l'arrivée du grand-père dans une espèce de deux pièces miteux. On se dit quand même qu'il est le frigo est pourri, il est vide, il vit avec des emballages de yaourt pas finis.
Enfin, on n'est pas sur une réussite.
On n'est pas encore dans le Diogène, mais il y a un laisser-aller, oui. Il y a un renoncement.
C'est ça.
Voilà, il y a un renoncement à la vie en général.
Et l'arrivée de ce grand-père, qui est une star, qui est connue et qui saoule.
Et qu'il n'a pas vu depuis 20 ans.
Son fils, voilà.
Ouais, à peu près. Et
il ne comprend pas pourquoi il redébarque dans
ce. Oui, il y a quand même un gros, on va dire qu'il y a un gros passif entre les deux.
Il y a un contentieux,
et donc pourquoi il revient, qu'est-ce qu'il veut, et on met du temps à se trouver. Et alors il vient, on peut le dire.
Il dit assez rapidement, il vient parce qu'il veut écrire un livre. On lui a commandé un livre, une bio de sa vie, son œuvre, sa carrière, et il veut sortir avec le menton dressé vers le ciel et la fierté, le torse bombé. Et comme son fils est auteur, il se dit bah autant que ça soit toi qui l'écrive, comme ça au moins ça restera dans la famille.
Ça fait de l'argent en plus.
Voilà. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu.
Non, tout ne va pas tout à fait se passer comme prévu, mais on peut penser que le fait qu'il demande à son fils d'écrire à sa place cache peut-être quelque chose d'autre.
Bien sûr.
Alors au fond, est-ce qu'il ne demande pas,
pas
non, on va
rien
dire du
fin,
tout, mais
oui.
Peut-être qu'il vient demander à son fils autre chose que d'écrire simplement sur son père.
Est-ce que c'est une manière pour lui justement de reprendre le contact en lui racontant sa vision de sa vie pour qu'il le comprenne?
Voilà, et en fait d'une certaine manière... ils racontent chacun à leur tour leur vie et leur rapport ou leur non-rapport. Voilà. Mais
et d'une méchanceté effroyable quand même, parce qu'ils s'envoient des couteaux.
D'une acidité assez forte, qui crée d'ailleurs le rire, ça honnêtement, parce que c'est une pièce...
Jamais la gêne, vous n'entendez pas le public à un moment donné faire « Oh !»
Oui, si, j'entends. Il y a comme
c'est
ça deux, trois passages, deux, trois passages qui sont vraiment... assez terrible.
Ah oui.
Et où les gens font. Oh,
et ils jubilent.
Oh, oui.
Ils jubilent.
Moi, j'adore.
Vois, un des pires moments, une des pires tirades qui me balance dans la tête, je le vois. Et ils jubilent. C'est-à-dire que je vois son plaisir. Il le goûte, d'ailleurs, ce truc-là. D'ailleurs,
Vous voulez dire qu'il est aussi vachard que son personnage?
C'est le moment qu'il a su le plus rapidement. Cette tirade-là, il l'a su. Le troisième jour de répétition, il la savait par cœur.
Il a signé pour ça.
Il me l'envoie. Avec une espèce de jubilation, il prend son temps, il ménage sa sortie, c'est extraordinaire.
Mais ce qui est fou, c'est que, Pierre, on a le sentiment dans les pièces que vous choisissez, celle écrite par Salomé aussi, et qui est renvoyée à votre propre couple, et à ce qui pouvait se passer, que tout ce qui a écho, qui trouve écho dans votre vie, vous délecte comme une sorte de mise en abîme. Le fait même de démarrer par cette mise en scène extrêmement élégante et intelligente de Julien Boisselier, où vous êtes dos au public, face à un miroir, face à votre image, cette image qui nous éclaire, parce que d'un coup, nous, on est aussi éblouis par les lumières de ce miroir. Tout est là, quoi. Tout est dit en une scène, c'est-à-dire, je suis dos à vous, mais je me regarde, et c'est regardez-moi.
Oui, bien sûr, il y a ça. Il y a une sorte de... Il dit lui-même, d'ailleurs, il est tellement narcissique qu'il faut partager ce narcissisme avec ceux qui vous regardent. Un acteur ne s'appartient plus, il appartient qu'à tous ceux qu'il contemple, comme dit Alexis Macquart. Ça n'est pas faux, d'ailleurs.
Alexis, qui a écrit cette pièce pour vous, sur votre musique.
Il n'a pas écrit la pièce pour moi. Il a écrit le rôle pour moi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Il a écrit la pièce pour Nicolas.
Il a même écrit le rôle de Nicolas Briançon pour Nicolas Briançon.
Alors, d'après ce que j'ai compris, Nicolas, mais vous pouvez me corriger, évidemment, il a écrit la pièce à votre demande et il avait envie de penser au personnage, j'avais
reçu une première pièce d'Alexis, que j'ai d'ailleurs mis en scène, qui s'appelait La maîtresse de mon fils, que j'avais montée avec François Vicentelli et Camille Lavabre.
Camille Lavabre,
que vous connaissez, je crois.
Et qui était une
pièce que j'aimais beaucoup. C'est d'une institutrice qui convoquait un père de famille parce que son enfant, au cours préparatoire, alors qu'on lui demandait de dessiner une fleur, avait dessiné une fleur qui semblait à l'institutrice de forme phallique, et donc elle convoquait le père, et donc c'était très marrant parce que c'est bon, tout ça à quoi on est confronté aujourd'hui était exposé dans la pièce de façon très intelligente. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture d'Alexis. Je trouvais ça assez rare, assez fin, assez et écrit. Ce qui est un plus, je trouve, au théâtre, quand il y a une langue en plus derrière ça.
Et vous lui avez vraiment dit
et je lui ai dit, vas-y, moi j'ai envie de... Oui, j'ai envie, c'est important quand on a la chance de trouver un auteur. Il faut essayer de le pousser. Et puis très vite, il a envoyé cette pièce. Et voilà, après on s'est mis en action, on a fait une lecture avec Pierre. Il a dit à la fin de la lecture...
Je reviens, oui.
Je la joue.
Ok, je reviens à ce que au point de départ sur le rythme, la musique, les répliques. Il y a des phrases, le fameux c'est consternant. On se dit ça ne même si vous l'avez rajouté, peut-être qu'il n'était pas dans la pièce. Tout est tellement
non,
vous.
Non, il y en avait un peu, mais il a dû s'inspirer de ce que je dis en général. Voilà,
c'est-à-dire on a travaillé comme une création. C'est-à-dire Julien, on a travaillé aussi avec l'auteur en répétition tout le temps. C'est-à-dire on a coupé, on a rajouté, on a réduit, on a réécrit certaines choses. La fin est arrivée un peu.
Elle est dingue,
la fin. Il a trouvé une idée absolument merveilleuse dans la situation et dans l'écriture. Non, c'est très agréable et c'est aussi ça qui est passionnant quand on fait une création. C'est-à-dire quand on joue un auteur vivant, c'est que le travail se fait aussi avec lui. Et pendant les répétitions...
À quatre personnages, finalement.
Oui. Et puis il est très... Alors, rendons à César, parce qu'il est très près de son texte, Alexis. Hein. Il n'aime pas... On a eu des...
Il n'aime pas trop qu'on change une virgule.
Il n'aime pas trop qu'on change une virgule, donc il y a eu des petits bras de fer, quand même. Mais il avait raison. Et il a raison de tenir sa ligne. Et encore une fois, c'est très réjouissant de créer un auteur de je ne sais plus qui m'a dit l'autre jour un auteur est né, mais je crois qu'un auteur est né, oui, avec Macquart qui va rejoindre et si il
était né pas dévoré d'ailleurs, hein, parce que toi j'ai pas vu la pièce dont tu parles, mais j'en avais lu une autre écrite par lui qui n'était pas tout à fait aboutie, mais il y avait déjà à l'intérieur de ça quelque chose qui était déjà très très prometteur, et là c'est plus prometteur, c'est la naissance d'un véritable auteur.
Oui, et puis vous êtes tous les deux des monstres sacrés du théâtre.
Sacrés, non. Que... Des monstres, oui, et pas dans le bon sens du théâtre. Enfin, bon.
Vous êtes monstrueux.
Voilà, c'est plutôt ça.
Vous êtes monstrueux.
Non, moi, je joue avec un monstre sacré. Moi, je suis vraiment dans la position du fan. Non, mais c'est vrai, hein. Je suis dans la position du fan avec Pierre. Et c'est absolument merveilleux, d'ailleurs, je remercie cette occasion et le ciel d'avoir permis cette rencontre. C'est-à-dire jouer avec un acteur que vous admirez et qui a été.
Ben, ça vous change de Berléand, parce
et
que
qui était. Quand même, oui.
Voilà.
Du très vieux François Berléand.
C'est normal, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes.
Voilà. Il était temps que vous passiez à une catégorie supérieure. Voilà.
Non, mais François, il est.
On lui en parlera la semaine prochaine.
Oui, c'est vrai, François,
on lui dira. Non, mais ça me touche beaucoup parce que je sais que ce qu'il dit, il le pense vraiment.
Évidemment.
Mais moi, je pense vraiment. Alors, toute modestie mise à la poubelle, mais je ne suis pas modeste. François Perrier avait dit un jour à sa femme, je n'ai qu'un seul successeur, c'est Pierre Arditi. Donc, ça m'a évidemment flatté, parce que j'avais une admiration folle pour lui, et je pense que, si tant est que je puisse avoir une valeur, mon seul successeur, c'est lui.
Oh,
parce que, oui, parce que je l'ai vu jouer un certain nombre de fois, et ce qui me flatte, c'est que de temps en temps, il me pique des trucs, et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît absolument beaucoup.
Ça
fait partie d'un certain nombre de mecs qui m'imitent, très bien. D'ailleurs.
Non.
Mais
Que vous inspirez.
Je l'ai vu 10 fois. Je l'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans... Comment s'appelait
Le Canard à l'Orange.
Voilà, le Canard à l'Orange, où il était absolument divin. Et une autre chose, vous avez pris des sketchs de Poiret et Serrault.
Oui. Ah oui.
Où ils avec étaient François tous Berléand. Tous les deux avec Berléand. Et avec toi, mon petit Nicolas, où ils étaient tous les deux, honnêtement, géniaux. Parce que passer derrière ces deux-là, pour en faire quelque chose qui est réinventé, c'est rarissime de réussir.
Je crois que tout est dit, l'émission peut s'arrêter.
Pour avoir beaucoup vu, non mais pour avoir eu la chance
truc,
de beaucoup.
C'est qu'il est très chiant.
Surtout, il est très long sur ses anecdotes du théâtre.
Oui. Monsieur,
commencez pas.
Oui. C'est-à-dire qu'on sent que l'idée de départ est possiblement, mais je moi tu vois,
je me souviendrai de presque tout au théâtre Montparnasse avec Carlité et Nicolas Briançon.
Faut bien préciser quand même.
Non, on n'a pas le temps.
Il se souvient de presque tout, non pas parce qu'il a l'Alzheimer, mais c'est parce qu'il y a des choses dont il ne veut pas se souvenir.
Exactement.
C'est important.
Une chape de plomb a été mise sur certaines informations et peut-être qu'il va falloir qu'il en parle justement pour son autobiographie. On continue d'en parler jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Lisa Delmoitier.
Ah oui.
Non, il n'est pas écrit une pièce comme ça, vous,
non,
contrairement à Alexis
non,
Macquart.
Par rapport au fait que mon papa, à moi, ben, il est gentil. Hein, il ne me dit pas que je suis une déception. Imaginez la gentillesse. Comment la gentillesse devient un mensonge. Bref, c'est un autre sujet. Et contrairement à votre personnage, Nicolas Briançon, mon père n'a pas changé de nom. Ce qui implique, rendez-vous compte, qu'il doit assumer tous les jours d'être affilié à une saltimbanque qui a écrit un jour une chronique sur France Inter intitulée « Attache remorque ou plug anal ?»
Wow.
Wow. Faut le porter quand même, hein. Le nom. Ah, vous avez la référence, intéressant.
Oui, oui,
on l'a dit, hein, vous jouez un père cruel doublé d'un acteur à succès, Nicolas Briançon, vous êtes donc son fils, un écrivain raté. Quelle expression ignoble, hein, écrivain raté. Ouais. C'est pas un écrivain raté, c'est un écrivain qui a écrit un seul livre. On peut pas juger sur un premier essai. Le premier livre, c'est comme la première crêpe ou le premier enfant. J'ai eu d'ailleurs mon grand frère au passage, qui fait d'excellentes crêpes. Non, il faut jamais s'arrêter qu'à un livre ou une pièce ou un film, vous y jouerez toute votre estime de vous et votre réputation. Non, il y a deux cas de figure. Soit vous écrivez votre premier livre et c'est phénoménal, auquel cas vous pouvez vous arrêter là, partir sur un succès comme J.D. Salinger, qui n'a écrit finalement qu'un seul véritable roman, L'Attrape-cœur, ou encore Jordi, et dur dur d'être un bébé. On ne fera pas mieux. Quoique je l'attends quand même, le moumou d'être un pépé. Bon, premier cas de figure, donc deuxième cas de figure, tu sors un premier écrit et tu te rends compte que c'est pas ouf. Pas fou. L'astuce est alors de noyer...
Pourquoi moi ?
J'ai l'habitude de travailler avec différents publics. L'astuce est alors de noyer le poisson dans la masse en devenant chroniqueur en quotidienne sur France Inter. Plus personne ne se demande si Oldelaf, Emma, Tanguy ou moi écrivons bien. Les gens se demandent juste comment on tient. Quand je croise mes amis, ils me disent jamais « c'est bien ce que t'écris ». Ils me disent juste « ça va ?» C'est génial, la prolificité a complètement évacué la question de la qualité. On n'a rien inventé d'ailleurs. C'est la même technique utilisée par les parents de familles nombreuses. Tu fais un seul enfant. T'as intérêt à ce qu'il fasse Harvard, où tout le monde pense que t'es un parent raté. Mais tu fais 13 gosses. T'es le parent de l'année si t'arrives simplement à les garder en vie. Ouais. Petit conseil, dilué dans le nombre. Et dans la pièce Paraditi, votre fils, vous l'avez gardé en vie, certes, mais ça s'arrête un peu là, niveau qualité de la relation, jusqu'au jour où vous lui demandez d'écrire vos mémoires. En général, quand ton père te demande ça, c'est un indice que lui, il arrive à l'âge où on la perd, la sienne de mémoire. Hein, c'est marrant, c'est comme si j'écrivais un bouquin sur les clés le jour où je perds les miennes. Particulier le concept. Mais sans spoiler, merci Daniel qui a compris avec. Après, c'est de la dentelle, l'humour. Hein. Moi, je suis une personne à la fois. Mais sans spoiler.
Moi, c'est bon.
C'est une démarche qui va rapprocher, même s'il est exprimé avec rancœur, avec des non-dits, des petites piques, des grosses saloperies. Un père et un fils qui règlent leur compte, mais au moins, c'est un père et un fils qui se parlent. Et ça, je crois que c'est quand même de l'amour. Bon, on parle de deux hommes d'un âge certain. Donc, niveau communiquer sur leurs émotions, tu sens que j'ai placé la barre assez basse. Oui, bon, bah déjà, ils ne s'insultent pas de PD autour d'un barbecue. Donc, pour moi, c'est de l'amour. Hein. Et c'est joyeux d'écrire des mémoires en famille, se plonger dans l'histoire de la génération avant nous. J'aimerais bien faire ça avec mon papa aussi. Et j'ai trop de chance parce que je peux même remonter plus loin dans la mémoire. Figurez-vous qu'un auditeur de l'émission a fait mon arbre généalogique.
Oh, waouh, t'as la chance.
Alors, je vous rassure, c'est parce que c'est aussi un Delmoitier. Sinon, ce serait un peu flippant quand même.
Ouais.
Lisa, je t'aime trop. Ton arrière-grand-père était chevalier, donne-moi ton ADN. Ouais, non. Non, c'est un Delmoitier. Et il s'avère qu'on est parents à la 7e génération, avec ce super auditeur, d'un certain Vincent Joseph Delmoitier, qui s'est battu dans l'armée de Napoléon. Vous y croyez,
ça ?
Je suis belge, mais dans ma famille, quelqu'un s'est battu pour vous. Ah, s'il avait pu voir dans le futur la Coupe du Monde 2018. Peut-être aurait-il rejoint le bon drapeau. Enfin bon, c'est trop mignon cette histoire parce qu'ils se sont rencontrés avec mon papa et l'auditeur pour parler de tout ça. Et maintenant, mon papa m'envoie des emails avec notre histoire. Alors, entre ça et la pièce, ça me motive. Mon petit papa, peut-être bien aussi qu'un jour, je vais écrire son histoire.
Oh, joli. Merci.
À la télé, sur France Télé, d'ailleurs.
Ouais, pour ce spectacle Remontada, Lisa Delmoitier.
Et puis, elle écrit bien, cette jeune fille.
Elle écrit bien, oui. Ouais,
ouais. Et
elle parle un peu vite, mais elle écrit très très bien.
Miguel van der Linden, qui joue le petit-fils, va avoir beaucoup plus de facilité à parler à son grand-père qu'à son père. Parce que justement, le rapport entre petit-fils et grands-parents, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la punition, on n'est pas dans l'éducation. Mais on peut se parler. Et d'ailleurs, il va lui balancer en très peu de temps beaucoup d'informations ignorées par son papa avant.
Il n'y a pas de contentieux avec lui. Il y a simplement, effectivement, il y a vraiment une tendresse profonde de sa part à lui pour le petit. J'appelle petit parce qu'il est encore petit.
Parce que vous ne connaissez pas son nom, surtout.
Et le petit, lui, a une sorte de confiance.
Oui, c'est ça, dans la pièce, vous ne connaissez pas le prénom du petit.
Votre petit-fils. Votre personnage ne connaît pas le prénom de son petit-fils.
Non, oui. Non. Peu importe.
A priori.
Il est immédiatement.
Il a une absence.
Oui.
De plusieurs années.
Non, mais c'est rien, ça.
20 ans.
C'est un effet de l'auteur.
Oui, mais ça fonctionne.
Je suis très content de te revoir. Je ne me souviens plus de son prénom. Non, mais ça va me revenir.
Ça fonctionne parce
qu'ils ont pas mal de choses à se dire.
Ben voilà.
Tandis que avec le fils, ils ont aussi beaucoup de choses à se dire, mais c'est plus que c'est. Ils ont du mal à accoucher, quoi.
Non, mais puis au-delà de ça, le fait que le petit-fils se confie très facilement et très rapidement au grand-père flatte l'ego de ce grand-père en disant mais tu vois, toi, t'es même pas capable de faire attention à ton propre fils. C'est-à-dire qu'il lui retourne l'agression de la mauvaise éducation en l'attaquant par le prisme de son petit-fils, qui est une violence inouïe.
L'enjeu, c'est d'être un bon père. Quoi. Ouais. Qui est le bon père là-dedans?
Et qui est le bon fils?
Est-ce qu'on n'est jamais d'ailleurs un bon père? C'est compliqué d'être un père. Hein, c'est basé sur rien, ça se construit sur du vide. Faut changer son rôle tous les jours. Enfin, c'est une façon de parler.
C'est pas moi
qui parle comme ça.
Je me souviendrai de presque tout. Qu'est-ce qui vous a plu, Nicolas Briançon?
Chaque fils est, d'une certaine façon, le père de son père.
Le devient, en tout cas.
Ou le devient, oui, en tout cas. Il y a un moment où on devient, je crois, le père de ses parents. Ou la mère de ses parents. Et c'est un moment qui est patent, c'est-à-dire qu'il est très immature avec son propre fils.
Et très complice avec le petit-fils.
Alors, très immature avec son fils, très complice avec le petit-fils. Ouais. Et moi-même, je suis très immature avec mon fils. Et finalement, dans une attitude plus volontariste, plus responsable avec mon propre père. Ce qui est souvent le cas. Ce que la pièce évoque très bien, sans jamais le raconter, juste en montrant ces rapports entre nous et qui sont des axes, des changements d'énergie, de force qui se passent entre les êtres et qui qu'on n'explique pas toujours ou qu'on explique après si on fait une analyse ou une psychanalyse. Mais
c'est ça qui est fort, c'est que ça donne à réfléchir. C'est à la fois extrêmement drôle, vraiment, vous riez énormément. Ça a tellement ri que moi j'ai envie de retourner voir la pièce parce que certaines répliques étaient bouffées par les rires de...
Ah bah c'était la première, on n'était pas...
De la salle.
C'est
le public qui n'était pas bon.
Une première, le public était super. Mais une première, c'est vrai que c'est la découverte des réactions. Ouais. Et c'est le moment aussi où le public nous apprend des choses sur la pièce. C'est-à-dire que même nous, on n'entrevoit pas toujours, on peut répéter pendant des semaines, on n'entrevoit pas toujours la portée ou la force d'une réplique ou d'une situation. Et ça, on le découvre vraiment à la première. C'est ce qui est si joyeux dans les premières représentations, c'est que là, on...
Et vous sentez aussi l'émotion, vous sentez aussi quand ça touche et qu'on retient nos larmes, ou on les retient pas, ce qui fut mon cas d'ailleurs, parce qu'il y a eu un moment où
les rires sont une réponse immédiate et divine. Les silences où on sent que le cœur se tord, c'est la même récompense, mais elle est silencieuse et pourtant elle dit tout.
Donc c'est joyeux de jouer dans une pièce qui permet justement, et c'est assez rare dans le théâtre français, de pouvoir passer comme ça du rire. On démarre presque de temps en temps sur comme un boulevard. On est vraiment dans une comédie pure.
Absolument.
Et tout d'un coup, en une fraction de seconde, on sent que il y a une sorte de silence qui se fait, il y a une émotion qui monte, et puis on rebascule et on repart. Et c'est très joyeux de se promener dans tous ces registres.
Peut-être parce que c'est bien joué. Ça doit aider aussi.
Pierre, alors, ça dépend par qui.
Pierre, c'est le je ne parlais que de vous, Pierre.
L'un
vous
de savez... nous est exceptionnel.
Pierre Aldi, Nicolas Briançon et Miguel.
Demain, j'en ai pas invité.
Il n'est pas venu, c'est bête.
Ils sont à l'affiche au théâtre.
Miguel, si tu nous entends.
Parnasse, voilà, on te salue.
Mon petit Mimi, tu es
formidable.
Voici
Tom Maldetti.
Bonjour. Ça va bien?
Bonjour.
Ça va très bien. J'étais à Marseille ce week-end, c'était incroyable. Pour la première date de ma tournée. Ouais, devant 1700 personnes. Incroyable. 1700 personnes qui m'ont toutes découverte grâce à mes chroniques France Inter. C'est faux, c'est absolument faux. Sur les 1700 personnes, quand j'ai demandé qui m'a découvert sur France Inter, il y a 40 personnes qui ont crié « On pensait voir Bruno Pecky !» Il n'y a personne qui me connaît grâce à la radio, quoi. Je gagne ni oseille ni spectateur et je perds des heures de sommeil. C'est un investissement personnel rentable. Marseille, c'est ma ville préférée, juste après Toulouse, je pense. J'aime tellement cette ville, j'y vais très souvent. Puis à chaque fois que j'y vais, il y a un truc un peu spécial qui se passe. Je suis bourré à chaque fois, quoi. Marseille, c'est ma meilleure amie que je croise qu'en soirée, à qui je fais des déclarations tout sous, là. Marseille, je t'aime.
T'es ma meilleure amie. T'es toute bleue, ça te va super bien.
Marcel, on s'est jamais rencontré sobre. C'est peut-être pour ça que ça match autant. C'est à cause du cours Julien aussi. Je sais pas si vous connaissez le cours Julien.
Bien sûr.
Oui, bah, c'est un quartier incroyable. Bon, la fête de l'Huma. Vous êtes né?
Quasiment.
Mais je vous adore. fête de l'Huma à échelle un peu restreinte, quoi. Ça fait des soirées techno sur des redis France Inter remixés. Bienvenue avec la bande originale. J'étais à Marseille.
C'est
oh là, faire du beatbox sur France Inter. Oh là là. Je pense que c'est inédit. Hein. Puis j'étais à Marseille le week-end qui précède le Classico au Vélodrome. C'est un moment particulier. C'est une fois par an que ça se passe au Vélodrome. Puis le Classico, c'est plus qu'un match de foot. C'est l'incarnation d'une rivalité historique et identitaire. L'ambiance était tellement électrique que ça a provoqué des orages qui ont dû décaler le match. C'est puis c'est fou de voir la tension monter au fur et à mesure dans la ville. On peut entendre ce doux chant dans les rues de Marseille. Paris, Paris, on t'encourage à arrêter le foot.
Non, c'est pas ça.
Et on t'incule.
Voilà, c'est ça.
Après, j'y étais quelques semaines avant à Marseille. Cette fois, c'était le match Marseille-Paris FC. Je pensais que le problème avec Marseille, c'était le Paris Saint-Germain. Le problème avec Marseille, c'est Paris tout court, quoi. J'ai demandé à un pote parisien, marseillais, pardon, si c'était un problème pour eux qu'un deuxième club parisien monte en Ligue 1. Pas du tout, Fada! S'écria-t-il d'un air désabusé. C'est une deuxième occasion de dire aux Parisiens d'aller se faire enculer. Ce qui est juste dommage, c'est que les deux matchs contre Paris sont trop rapprochés dans l'année. Ils sont à 3 semaines d'intervalle. Ça fait du bien pendant pas longtemps, puis après c'est long. C'est comme ceux qui sont nés quelques jours avant Noël. Tu as ta peine de cadeaux en décembre, mais tu es frustré tout le reste de l'année. Bravo à Marseille, qui a gagné. Première victoire en championnat contre Paris depuis 14 ans. Ouais. Moi, j'ai pas le choix que d'être pour l'OM. Je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux avec un personnage qui a l'accent du Sud, la Sardine. Peut-être vous me suivez sur Instagram, monsieur RGT. Instagram, alors, vous voyez ce que c'est?
Non, pas
c'est
bien.
C'est un moyen de communication, mais c'est Red Flag.
Ah oui,
je l'ai noté là, parce que j'ai
bien compris. Merci, hein, c'est sympa. Je reviendrai plus souvent.
Mais avec ce personnage, les gens pensent que je suis Marseillais et les Marseillais en premier. J'ai même été invité par l'OM au Vélodrome. Il m'a dit, mais toi, t'es pour l'OM, toi. Je dis, ouais, tarpin pour l'OM. C'est ceux en bleu, non? Donc, merci Marseille. Merci d'exister. Merci d'avoir fait se lever 1700 habitants de ta ville dans ma salle samedi dernier. Merci d'être à l'origine d'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Merci de m'avoir presque adopté. Et encore bravo pour ta victoire. Je suis content de te voir heureuse. Si Marseille va bien, la sardine pète la forme. Et Paris, Paris, on t'embrasse.
Merci.
Énorme tournée pour Tom Baldetti. Paris, c'est tous les mardis et mercredis. Deauville, le 27 septembre. Cannes, le 5 octobre. La Rochelle, le 11 octobre. Et la Grande Motte, le 14.
Il y a de la musique dans cette pièce avec Pierre Arditi, Nicolas Briançon et Miguel van der Linden. Et il y a une chanson, évidemment. On ne dit pas à quel moment cette chanson est diffusée, mais c'est extrêmement drôle, oui. d'avoir l'idée de parler de cette chanson alors qu'il n'est pas du tout ch'ti, en l'occurrence votre personnage.
Non, pas du tout.
J'ai proposé qu'on sorte d'ailleurs la chanson chantée par Pierre Arditi, Pierre Bachelet. Et je ne désespère pas avant la fin de la représentation.
Très bien, on ne lâche rien.
Un petit merchandising avec ce...
C'est dommage parce qu'on pourrait demander à Nicolas Briançon et aux petits qui pourraient venir exprès pour ça, de chanter tous les deux, ceux qui font dans la pièce, un séisme culturel que cette chanson, chantée par eux deux, dont on se souviendra, c'est un peu le ventre mou de la pièce.
C'est une chanson qui à la base est émouvante, mais qui devient une vanne chanson. Voilà, exactement. Petits-enfants, grands-parents, les relations intergénérationnelles, on en parlera avec Viviane Coves-Masfetti, qui sera notre invitée, mais d'abord la musique dans vos vies, Pierre Arditi, vous écoutiez en 87 John Coltrane et le jazz, et en 87, Leïla, dans la vie de Pierre Arditi.
C'est une razzia en 87, Pierre Arditi. Molière du meilleur second rôle pour La répétition ou L'amour puni. Un César du meilleur second rôle pour Mélo d'Alain René. Et un 7 d'or aussi. 7 d'or du meilleur interprète pour un téléfilm, Le parfait amour de Jean-Pierre Marchand.
Ouais.
C'est une reconnaissance absolue sur tous les plans, en fait. Tout le monde s'aligne,
oui,
la même année.
Oui, ouais. Visiblement.
Est-ce que ça fait prendre
ça donne des petites sensations, je sais pas, de...
Ça donne des sensations bien lourdes. Il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui aiment les médailles, ceux qui les aiment pas. Bon, moi, en tout cas, celles-là, je les aime bien parce que c'est une reconnaissance des miens. Voilà, de mes pairs, P-A-I-R-S. Voilà, donc je...
On se dit pas c'est trop, on se dit pas c'est trop.
Non, non, c'est pas trop. Non, 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 il y en a jamais assez.
Non, mais on se dit pas c'est trop.
Vous remarquez quand même que les deux premières récompenses dont vous avez parlé sont données pour des seconds rôles.
Ah oui, mais bon.
Bah, alors, le Molière du meilleur acteur, après 60 ans de carrière, je ne l'ai jamais eu. Mais j'ai eu le meilleur acteur au cinéma, ce qui est curieux.
Mais ça reste le jeu du comédien et de l'acteur.
Oui, oui, non, non.
Si c'est un premier ou un second rôle. Non, mais c'est pas le nombre de lits.
Dans 20 ans, Molière d'honneur, Pierre.
Oui. Ou alors, sur ma tombe.
Non, ouais.
Voilà. Non, non, mais si.
C'est d'ailleurs cette mise en abîme qu'il y a dans la pièce de théâtre, aussi beaucoup de nominations et...
Oui, oui, oui. Beaucoup de nominations et une seule malheureuse récompense.
C'est dit dans la pièce.
Non, c'est dans la pièce, ça, oui.
Comme quoi, Alexis Macquart l'a écrite entre guillemets au hasard, évidemment. Pas du tout pour vous, Pierre. Dans cette même période 87, Nicolas Briançon, vous écoutiez l'excellent...
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime.
Sublime chanson. Il y a une mode, et tant mieux, du retour des textes de Reggiani, de son interprétation.
C'est merveilleux.
C'était toute génération.
Un acteur merveilleux, une voix merveilleuse, un interprète merveilleux. Cette chanson me fait monter les larmes aux yeux en 20 secondes. Voilà, j'ai choisi cette année-là, mais j'ai toujours écouté Reggiani tout le temps. Ça revient de temps en temps. Il y a des périodes, j'ai des périodes Reggiani où tout d'un coup je réécoute un album entier en me disant de chaque chanson. J'ai réécouté hier une chanson qui s'appelle À ma fille. Qui me transporte et en même temps je trouve que c'est très joyeux d'écouter des chansons tristes, c'est très bizarre, les chansons tristes me remplissent d'un bonheur absolu.
Dans ces années, Leïla...
C'est Jean Marais, vous êtes son assistant, et très rapidement...
Voilà, j'adore le tient bien.
Il limite très bien.
Mais au bout de peu de temps...
Écoute, tu étais tellement... passionnant.
Cette voix de vieux chat, j'adore. Et il vous demande de jouer.
Il l'a fabriqué lui-même, il le racontait. Puisque Jean Marais, dans ses premiers films, on l'entend avec une voix très un peu dans le nez, comme ça, un peu nasillarde, etc. Il avait dit qu'il détestait sa propre voix, qu'il s'était mis à fumer tardivement 2 paquets de clopes par jour, qu'il a tenu jusqu'à la fin de sa vie. Pour casser sa voix, et que sa voix est devenue cette chose de la fin, là.
Et très rapidement, il vous demande de jouer, en fait.
Oui, au bout de, en fait, je vais le voir pour être son assistant, parce qu'il cherche un assistant mise en scène, et j'arrive chez lui dans son petit studio à Montmartre. Il avait sorti, parce qu'il faisait la mise en scène, les décors, les costumes, ses plans, ses trucs. J'étais assistant de fête, et puis au bout de 10 minutes, il m'a dit, mais ça t'amuserait de jouer le rôle? Alors je dis, ben oui. Il m'a dit, comme ça m'évite de chercher. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire, cette confiance, tout d'un coup, donnée à un inconnu.
C'est un coup de bol. C'est un coup de bol. Voilà, pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est un coup de bol.
Et c'était... c'est génial de croiser jeune, quelqu'un qui vous donne cette confiance et qui vous...
On se rend compte du mythe, du personnage, de l'image
maintenant, oui, à l'époque, pas du tout. Ouais. À l'époque, bien sûr. Je m'en suis rendu compte le soir de la première de cette pièce de Cocteau qu'on jouait, qui était Bacchus, quand il est rentré en scène. Parce que je commençais la pièce avec celle qui jouait ma sœur, Cyril Godin, où on faisait les enfants, et tout d'un coup, Jean arrivait. Et on a créé la pièce au Festival d'Anjou, donc il arrivait par le pont d'un château, comme ça. Et j'ai senti... Je crois qu'on était investis en situation avec ma camarade, mais j'ai senti que toute l'attention du public, pendant qu'on était en train de jouer... Tout d'un coup, se focaliser sur lui qui rentrait dans le fond et tout d'un coup, je l'ai regardé, je l'ai vu en scène, et je me suis dit, waouh, tu joues avec Jean Marais. Et c'était l'enfance, c'était tous les trucs de KPDP que j'avais vus, c'était tout ça qui revenait un peu comme quand je jouais avec Pierre Arditi.
Vous aimez bien jouer avec les personnes âgées, en fait.
Bon, merci.
Non, je parlais de François Berléand, bien sûr.
Je pensais qu'elle était délicieuse. C'est une peste.
Ah, enfin, c'est dit sur cette antenne.
Enfin.
Viviane,
ça me détend.
Viviane Covès-Masfetti nous a
rejoint. Ce que dit mon camarade de Briançon sur Marais. Ce qu'il dit sur Jean Marais, c'est... Je n'y étais pas, mais je suis certain, pour l'avoir croisé dans ma vie sans avoir pu jouer avec lui, il y avait une... Bon, il y avait une présence absolument divine, quoi, avec des gens comme ça.
Ouais, une aura.
Oui, ouais, une aura. Est-ce qu'il rentre et puis.
Il rentre dans un restaurant, tout le monde arrête de manger.
Le monde s'arrête pour le regarder. C'est, ça, ouais. C'est comme ça.
Ouais. Voilà. Viviane, donc, psychiatre qui a publié Être grand-mère aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. les rapports entre petits-enfants et grands-parents sont plus faciles qu'entre enfants et parents?
Alors, évidemment, ça dépend. Ça dépend de ce qui se passe entre les parents, ça dépend de ce qui se passe avec les grands-parents. Moi, je pensais qu'on allait parler des grands-pères, et en fait, je prépare un livre sur les grands-pères, donc là, je viens d'interviewer 32 grands-pères, justement, et donc ça me donne un peu une vision. Alors, forcément...
Mais alors, qu'est-ce qui change? On est plus dans la complicité que dans l'éducation, on n'est pas dans les interdits, on est dans la connivence?
Ça, c'est clair. La plupart des grands-parents ont parfaitement compris qu'ils ne seront pas dans l'éducation, mais dans le plaisir. Et
c'est pas leur rôle de dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça.
Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas, hein, mais enfin, ils sont conscients que...
Non, ils laissent passer, ouais.
Voilà, ils sont conscients
c'est eux qui filent les bonbons.
Ils incitent même à faire le contraire, en disant, chez moi, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est génial, d'ailleurs.
Voilà, pas toujours, mais en tous les cas, c'est sûr que le message est passé, qu'ils ne sont pas là pour éduquer les enfants. Et de toute façon, en une génération, le regard sur les enfants a complètement bougé. Mmh. Enfin, c'est très frappant. Si je parle des grands-pères, par exemple, une des questions que j'avais, c'est le changement du rôle des hommes entre les grands-pères et les pères aujourd'hui. Et donc, je voulais les interroger sur leur fils, leur gendre. Et c'est pratiquement unanime. C'est-à-dire, aujourd'hui, les fils, les gendres, ils n'ont pas forcément envie de faire une carrière. Ils ont envie de vivre, de voir leurs enfants, de s'en occuper. Et là, les grands-pères disent, quand même, ils pourraient peut-être un peu, moi qui me suis donné beaucoup de mal pour arriver là où je suis et faire une belle carrière, eux, ça a l'air de les laisser complètement indifférents.
Oui, mais ça c'est la société. C'est-à-dire...
Absolument. Et donc ça se reflète.
Prenons
dans
le temps de vivre
de
plutôt que de le passer à travailler ou à gâcher sa vie.
En tous les cas, ça se reflète beaucoup dans ce qui va se passer avec les petits-enfants.
Est-ce que les rapports, les confidences doivent finir un jour par arriver entre parents et enfants? Est-ce que les non-dits, les conflits larvés, cachés, doivent mécaniquement un jour sortir?
Alors, le mécanique, je ne vous suis pas.
Ok, non.
Mais je veux dire, psychologiquement, même au sens, j'ai bien compris,
c'est est-ce que c'est un soulagement que les choses soient dites?
Pour qu'elles soient dites, il faut qu'elles puissent être dites. Que le problème dans les questions que je posais, c'est l'intimité. C'est-à-dire, pour pouvoir se dire des choses, il faut de temps en temps être seul. Si on n'est pas seul, par exemple, avec ses petits-enfants, c'est difficile de construire une relation où on va pouvoir se dire des choses. Et que les grands-parents disent aux petits-enfants des choses en court-circuitant les parents, je pense que c'est un petit peu compliqué. Il faut voir que les grands-parents, ça passe beaucoup par les parents. Si les parents ne sont pas d'accord que vous ayez des relations avec vos petits-enfants, ça ne va pas arriver. C'est très difficile.
Dans la pièce, il y a des règlements de compte entre...
Oui.
tu ne m'as pas... les reproches que peut faire un fils sur « tu n'as pas été un bon père », et comme le père peut dire à son fils « tu n'as pas été un bon fils », parce que la question peut se poser aussi.
Oui, mais enfin, si vous voulez, la pièce, ça me fait un peu penser à ce qui se passe avec Adolescence. Bon, la pièce, c'est une pièce. Moi, je n'ai fait que la lire, j'espère beaucoup la voir d'ailleurs. Je l'ai trouvée extrêmement drôle, très intéressante. Il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas la vraie vie. Enfin, il y a des côtés un peu de la vraie vie, mais fondamentalement, c'est quand même un grand-père très particulier, avec un fils très particulier et un petit-fils aussi. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se joue. Ça serait peut-être bien d'ailleurs que ça se joue comme ça, parce qu'au moins, il y a de l'humour. Et dans la vie, il n'y a pas toujours, tout le monde n'a pas la chance, comme vous tous autour de la table, d'avoir un humour percutant. Enfin, je veux dire, parce que l'humour, ça met de la distance. Ça serait justement une voie possible. Mais la réalité des familles...
Vous êtes psychiatre,
forcément.
Est-ce que vous encourageriez n'importe quel enfant à un jour dire les yeux dans les yeux s'il y a eu un problème, s'il y a eu un souci, ou en tout cas dire la vérité à ses parents, ou c'est passé, c'est pas la peine de d'ouvrir des plaies, c'est pas la peine de remuer la merde comme on dit, et il faut laisser faire les choses?
Alors en fait, toute vérité est pas bonne à dire. Le problème, c'est le contexte. C'est-à-dire, sans compter que vous pouvez dire des choses que les gens n'entendent pas. Vous pouvez dire, cache à quelqu'un quelque chose et en fait, il n'entend pas parce qu'il ne peut
pas l'entendre.
Oui,
mais si ça vous fait du bien de le dire, est-ce que ce n'est pas aussi important de dire parfois à ses parents ce qu'on ressent, quand bien même on sait qu'ils ne vont peut-être pas l'entendre,
si
mais au moins...
Si ça fait du mal à l'autre.
Non, mais alors ça c'est autre chose. Mais si toi ça te libère aussi d'une douleur d'avoir dit voilà, moi j'ai traversé ça, je l'ai mal vécu. Peut-être que tu peux pas l'entendre, mais j'ai besoin de le dire. Et maintenant c'est derrière nous, c'est passé.
Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où effectivement ça se passe comme ça. Mmh. De toute façon, si quelqu'un a envie de le dire, il va le dire. Après, je pense qu'on sous-estime effectivement les conséquences. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on l'a dit que l'autre va l'entendre, c'est pas parce qu'on l'a dit que quoi que ce soit va se régler, ça peut même être le contraire. Enfin, c'est compliqué. Maintenant,
Et puis on n'est jamais le parent parfait, on commet de...
Ah non, bah, ça c'est clair. Hein. Ouais. Ni le grand-parent parfait, ni l'enfant parfait, là, il n'y a pas de problème. Le non-dit, c'est aussi quand même une forme de poison, effectivement. Oui. C'est-à-dire, tout le monde sent quand il y a un non-dit. Enfin, moi, je le vois dans des familles un peu compliquées. L'enfant sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Les parents, eux, par rapport à leurs propres parents, parce que vous vous posiez la question, est-ce qu'on se construit sur plusieurs générations ? Bien entendu, on se construit sur plusieurs générations. Que le grand-père soit là ou pas là, qu'il soit décédé, qu'on ne l'ait jamais vu, de toute façon, il existe. Son ombre est là. Il ne peut pas être... qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, il existe.
Et il y a même les secrets de famille, en plus, qui peuvent venir.
Voilà, mais ils se sentent. Enfin, je pense que quand il y a quelque chose, ça se sent.
Non, parce qu'on ne dira pas lequel, mais il y a aussi quand même un secret de famille qui pèse autour de ces trois personnages dans la pièce. Je me souviendrai de presque tout. Merci beaucoup Viviane Coves-Masfetti d'être venue. Je rappelle que vous signez Être grand-mère aujourd'hui aux éditions Audi Jacob et à suivre donc Être grand-père.
Absolument, merci le grand virage.
Voici l'hommage d'Emma Beaujean.
Hello. Bonjour Pierre, bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Attention, ça devient nuageux. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage au manteau. Alors là, chez vous, vous demandez si vous avez bien entendu, un hommage au menton. Non, 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 même si malheureusement ils tentent à disparaître derrière les barbes de hipsters et autres salafistes, comique de mots. Au mouton, elle a dit, bah, évidemment que non, comique sonore, adora mouton, plutôt crevax, comique engagé. Et alors, hommage à quoi ? Comique trop long, car sous-payé. Alors, j'ai dit hommage au manteau, car il est temps de rendre hommage à ces grands héros de l'ombre qui se prennent toutes les intempéries à notre place. Pluie, neige, vent, vomi de Lisa Delmoitier à la fête de rentrée de la bande originale. Ah, oui, oui. Et surtout, moi, je rends hommage au manteau pour une raison simple. J'ai découvert ça, le concept des vêtements chauds, en arrivant en métropole, puisque j'ai grandi à La Réunion. Et alors, Emma, c'est une raison pour faire une chronique dessus ? Ça va être quoi la prochaine ? Une chronique sur les petites bites ? C'est pas impossible, mais il faut vraiment que j'arrête de parler de la fête de rentrée de la bande originale.
Oui, s'il te plaît.
Alors, en découvrant les manteaux, j'ai aussi découvert une partie de la vie. J'ai découvert un climat, j'ai découvert une manière de s'habiller et j'ai développé une fascination pour cette pièce. Je vous avoue que c'est même devenu un objet de fantasme. Une fois, j'ai fait une surprise à un gars, je suis arrivée chez lui, nue sous un trench. Alors, sauf que j'habitais en banlieue, genre banni du lieu, vraiment. Et c'était un petit peu compliqué, j'ai dû faire 4 changements, la chatte à l'air. Il y avait le clébard d'un punk à chien qui me reniflait. Il m'a appelé croquette pendant tout le trajet. Et sans parler des courants d'air, j'ai appris qu'on pouvait prendre froid par en bas ce jour-là. Alors en plus, c'était complètement cramé que j'étais à poil. J'ai donné des très mauvaises idées à tous les pervers de la ligne 9. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je demande pardon publiquement à toutes les femmes de France. Car ce jour-là, j'ai donné naissance au premier frotteur de l'histoire. Et non, petit prank historique, le premier frotteur, c'est arrivé en même temps que le premier homme. Le manteau, c'est un allié et c'est la seule pièce de mode que tu payes pour cacher tes autres vêtements que t'as achetés. Ouais. C'est fou. Idée, hein, propale, vous mettez 600 euros dans un bon manteau et le reste, Emmaüs. Le manteau, c'est parfois sur lui qu'on trimballe un certain nombre d'affaires. C'est presque un sac à main de substitution. Et quand l'automne revient, on y retrouve parfois des objets qu'on y avait laissés figés dans le temps. Une place de concert, un chewing-gum, une capote usagée. Cette semaine, en récupérant un vieux manteau, j'ai retrouvé un billet. Alors pas un billet de 5, pas 10, mais bien 20 euros. Wow. Ça fait trop plaisir. Alors oui, juste, j'explique pour Nagui, pour nous trouver 20 euros, en gros, ça serait comme si toi, en passant ta Canada Goose le mois prochain, tu retrouvais dans les poches des actions titres d'une société de production internationale et hautement cotée en bourse. Imagine le délire. Moi, j'ai pas retrouvé une société cotée en bourse, mais j'ai retrouvé une biscotte cotée en croûte. Excusez-moi, pardonnez-moi, vraiment. J'ai dû prendre froid dans mes neurones cette fois. Non, en vrai, je peux pas me plaindre du froid. J'ai pas le droit. Moi, j'ai un toit et j'ai de quoi me réchauffer. Alors, je rends hommage au manteau, mais je pense surtout à ceux qui n'en ont pas. Quand je suis arrivée à Paris, que j'enchaînais les petits boulots, que j'étais étudiante, j'arrivais pas à payer mon appart et ça m'est arrivé une fois, une seule nuit de dormir dehors avant d'être hébergée par des potes. C'était la nuit la plus dure de ma vie alors qu'elle n'a duré
que 7 heures. Et je pense aux gens pour qui ça va pas durer, continue depuis plus de 30 ans. Et je rends surtout hommage à celles et ceux qui aident vraiment ces gens-là. Alors à ceux qui mettent des manteaux, oui, mais surtout à ceux qui les prêtent. Merci de m'avoir écouté.
Jolie Emma.
Là, je dois dire un truc, c'est que c'est pas consternant, c'est un séisme culturel.
On en est là.
Pas tout à fait la même chose.
C'est belle voilà. La fracture.
Avec plaisir. Avec plaisir.
Et ben bonjour sur scène.
Le vendredi à 21h, au Matour, hein, comme tout à l'heure.
Oui, Tanguy Pastureau, de quoi allons-nous parler ?
Doit-on, quand on est comédien, partager tout ce que disait la personnalité qu'on incarne dans un biopic ? Vous avez 16 heures.
Et Pierre Arditi et Nicolas Briançon sont nos invités jusqu'à midi et demi. Lisa Delboissier, Emma Beaujean, Tom Magnetti, Olga Afton, bonjour Daniel Morin, tout son bonjour, bonjour Pierre Arditi et Nicolas Briançon.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Au théâtre, mise en scène par Julien Boisselier, aux côtés de Miguel van der Linden, nos invités Pierre Arditi, Nicolas Briançon portent et donnent une dimension à ce texte d'Alexis Macquart. Alors, je n'ai fait que voir la pièce, je ne l'ai pas lue, donc je ne me rends pas compte, entre guillemets, de ce que vous en avez fait par rapport à ce qui était écrit, mais tout fonctionne tellement bien dans la drôlerie, dans la méchanceté, dans l'émotion, dans les rapports humains. Et même si on l'a bien compris, c'était un travail à quatre, finalement, avec Julien et Alexis, vous-même, vous avez apporté sûrement ce que vous portiez dans ce personnage. Quand on interprète des rôles comme ça, on demande à l'auteur ce qu'il a voulu dire, ou on l'interprète avec ce que l'on pense devoir porter comme message, comme valeur ou comme intention.
Oui, alors je vais prendre une phrase de Frank Capra, qui est un grand metteur en scène américain, oui, qui disait « Si vous avez un message à faire passer, adressez-vous à la poste. » Voilà, donc je suis totalement d'accord avec cette version des choses. Il n'y a pas de message, on incarne ou on n'incarne pas.
Oui, mais l'intention, par exemple, dans une phrase, vous pouvez vous dire « Là, je pense qu'il est méchant, là, je vais le faire comme ça. » L'intention n'est pas forcément dans les didascalies.
Non, si. Les didascalies, de toute façon, il ne faut jamais les lire parce que ça ne sert à rien.
Waouh !
Non, ça ne sert à rien. Les didascalies ne servent absolument à rien.
Si l'auteur...
Prenez les didascalies dans les pièces de Fedot, c'est une plaisanterie.
Il y a le nombre de fois où les portes claquent.
Mais non, c'est autrement. On incarne, donc on peut proposer, l'acteur propose des choses, le metteur en scène souhaite prend ce que vous proposez, soit l'enrichit,
Pierre, pardon,
soit...
Excusez-moi, je ne suis pas acteur, mais s'il est écrit... Voilà,
j'avais bien compris, oui.
Si une phrase est dite et qu'en dessous, avec un petit sourire en coin, ou avec colère, ou avec méchanceté, ou avec machin, l'intention compte, vous pouvez pas me dire, ça
oui,
ne joue pas.
Oui, bien entendu, mais elle est décidée, cette intention.
Eh ben, elle est dans les didascalies.
Non, les didascalies, c'est nous.
C'est qui cette
C'est nous qui décidons. C'est nous. Parce que vous vous rendez bien compte que quand on décide à l'avance que de toute façon ce sera joué comme ça, bah c'est pas la peine à ce moment-là de commencer à travailler.
Mais donc
ça
vous pouvez changer le sens totalement de ce que l'auteur voulait apporter.
Absolument. On peut changer le sens, mais on peut aussi changer la manière d'incarner ce qu'on nous demande d'incarner. Okay. Rien n'est décidé à l'avance.
Et donc quand
et
on
la
joue...
preuve même, c'est oui. que, comme on parlait tout à l'heure de notre première impression du public quand il vient nous voir pour la première fois, quand on joue devant lui pour la première fois, au bout d'un moment, c'est le public qui nous explique comment on doit jouer. Voilà, c'est comme ça. C'est étrange, mais vous ne le savez pas, mais vous nous dites vous-même comment il faut qu'on joue, en partie en tout cas comment il faut qu'on joue. Et on le découvre en même temps que vous. C'est comme ça. Les didascalies, on peut les foutre à la poubelle, ça n'a aucun intérêt.
Est-ce que je peux tempérer cette réponse c'est très légèrement
en disant que
ça aide à lire. Non, ça aide à lire une pièce, une didascalie. Ça aide à comprendre une pièce quand vous la lisez pour la première fois, voilà. Parce que tout d'un coup, il y a beaucoup de mots. Ouais. et donc ça met un peu d'air dans la lecture et ça donne des indications. Mais
on peut figurer les situations aussi.
Oui, oui, absolument. Et après, à partir de là, c'est effectivement le jeu, l'interprétation et puis le metteur en scène. Il se trouve qu'on a été vraiment dirigé. Il faut reconnaître.
Julien Boisselier.
Mais lui, il n'a pas tenu compte des didascalies, hein, Julien Boisselier.
Non, non,
il faisait... Non, mais c'est normal. Acteur studio, première semaine, donc il n'a pas bien... Il n'a pas bien compris, il n'a pas saisi encore comment ça se passe, tout ça. Alors...
Mon chaton.
Oui, voilà, c'est ça, c'est non, exactement ça.
Quand je pense que ce serait mon successeur, bon, je coupe ma gueule.
C'est toi qui l'as nommé.
C'est rare au théâtre de passer des rires aux larmes comme ça. C'est rare au théâtre, dans ce que vous lisez, de ce que vous recevez, et peut-être même de ce que vous allez voir chez vos camarades de jeu. L'écriture d'Alexis Macaire, si on peut, en quelques...
Alors moi, je trouve que c'est rare dans le théâtre français. C'est très courant dans le théâtre anglo-saxon, mais pour des raisons quasiment historiques, les Anglais ont un théâtre
culturel, ouais.
Totalement libre, sans règles. Shakespeare n'a aucune règle, et donc il mélange en permanence. Dans ses tragédies, il y a de la farce. Dans ses comédies, il y a des moments de poésie élégiaque absolument sublimes. Et toute leur histoire de théâtre est basée sur cette liberté. Nous, en France, on a un théâtre plus construit, plus intellectuel. On a inventé la règle des trois unités au XVIIe siècle, donc unité de temps, de lieu d'action. Qui fait qu'on ne pouvait pas en changer. Donc on a un théâtre très construit, très établi, très pensé, et dont on continue à avoir du mal à se libérer. D'ailleurs, ça continue, même dans les, parfois dans les films qu'on tourne, même dans les scénarios qu'on reçoit, où il faut qu'on soit soit dans la grosse comédie franche, soit dans un drame réaliste intime, mais on a encore du mal à cette de pouvoir passer comme ça
par toutes les facettes
dans la vie.
Et c'est ce que réussit Alexis Macaire.
Et c'est ce que réussit très bien, je trouve.
Très bien. Ouais. Dans ce métier, il n'y a pas de règles, mais il faut les connaître. Voilà, comme ça. Voilà. Bien, non, mais il est brillant.
Et vous l'êtes tout autant, sincèrement, pour vous avoir beaucoup vu avec plaisir au théâtre tous les deux.
Beaucoup trop.
Rarement, non.
Ça c'est agréable. Ça,
mais...
C'est vraiment une peste. Hein.
Je sais pas si vous le ressentez, mais en tout cas moi je vous ai rarement ressenti aussi épanoui, aussi à l'aise dans le plaisir d'être méchant, d'être drôle, d'être émouvant. Il y a une mise en abîme claire en vous faisant jouer un grand acteur au sommet de sa carrière qui se pose des questions sur sa biographie, sur le regard qu'il a de sa vie, sur cette transmission ou cet héritage vis-à-vis de Nicolas Briançon. Évidemment qu'il y a cette mise en abîme, mais au-delà de ça, vous jouez, vous incarnez, vous portez, vous interprétez magistralement ces rôles, et c'est un bonheur d'aller vous applaudir au Théâtre Montparnasse, et je vais y retourner puisque c'est un partnership, et j'ai bien compris qu'il fallait renvoyer des balles.
C'est un beau matériau, hein. Très beau. Ouais. L'acteur le plus admirable du monde ne peut jamais sauver une mauvaise pièce. Celle-là, elle est gigantesque, elle est presque... J'exagère, mais elle est presque facile à incarner parce qu'elle est tellement brillante et elle aborde la vie d'une manière tellement riche et tellement juste que si on n'arrive pas à faire ça, c'est qu'il faut qu'on quitte la profession.
Et on a de la joie à jouer ensemble.
Je me souviendrai de presque tout. Ils sont mignons.
C'est beau.
C'est au Théâtre du Montparnasse. Voici Tanguy Pastureau.
Quelles sont chouettes ces émissions avec des comédiens. On en reçoit souvent des jeunes, et aujourd'hui on a Nicolas Briançon et Pierre Arditi. Les acteurs, les comédiens, c'est... Les acteurs, les comédiens, c'est toujours glamour. Un chanteur, quand il fait la tête, on dit il est prétentieux. Un acteur qui fait la même chose, on dira qu'il est ténébreux. On en a eu, hein, des ténébreux et des ténébreuses. Il y a eu plus de ténèbres ici que dans un train fantôme dans lequel la machine à faire de la fumée serait restée bloquée sur on. Mais c'est classe. Hier, après l'émission, j'ai pris l'ascenseur avec Romain Duris. Même là, dans l'ascenseur, il était ténébreux. Hein, casquette, lunettes fumées, on aurait dit l'homme invisible. Vous vous souvenez, l'homme invisible? Pas toi, mais les gens qui ont un âge normal. Il se recouvrait de bandage pour qu'on le voit. Le soir, il retirait tout. On ne le voyait plus. Le pire, c'était pour sa femme. Parfois, il lui disait, louloute, ce soir, toi plus moi, 22h dans la master bedroom. Elle regardait Meurtre à Concarneau en se disant, bon, j'ai hâte. Une fois arrivé là-haut, impossible de le voir. Un coup sur deux, il s'était endormi dans la bibliothèque. Si le type ne ronflait pas, comment le retrouver? Et puis, pardon d'être trivial, mais si son épouse, prise d'un coup de sang, s'était mise en tête de pratiquer sur lui du sexe oral, je veux dire, qu'un ami était entré à ce moment-là dans la pièce, qu'est-ce qu'il aurait vu? Une dame la bouche ouverte en train de bouger frénétiquement dans le vide? Mais il aurait pensé que c'était un AVC ou un remake un peu chaud des SOS fantômes. Eh ben, dans les deux cas, t'appelles la police. Tout ça pour vous dire, un, que je suis désolé en une phrase d'avoir souillé les souvenirs de deux générations.
S'il vous plaît.
Deux, que cette chronique n'a pas de fil conducteur. Hein, on passe de Romain Duris à l'homme invisible sur le point de jouir. Et donc, je présente mes excuses pour ça. Arrivé à ce stade de mon intervention, je sais déjà qu'à la fin de la chronique, Pierre Arditi se tournera vers moi et dira « c'est consternant ». Ah si, le lien, Charlotte Gainsbourg. Elle aussi est ténébreuse, on l'a eu ici plusieurs fois, on est rarement parti sur une danse des canards. Et je suis tombé sur une pétition intitulée « Refusons l'incarnation falsifiée de Gisèle Halimi » par Charlotte Gainsbourg. Je t'explique, peuple perdu dans les méandres de l'actualité. Charlotte Gainsbourg, lundi, a signé une tribune appelant le président Macron à ne pas reconnaître un État palestinien avant que les otages soient libérés et le Hamas démantelé. Macron a fait l'inverse. Il a reconnu l'État et a dit le reste doit se produire. Deux salles, deux ambiances, comme on disait au Kalimba Club en 1992. Mais comme au Kalimba Club, il n'y a rien d'irrémédiable. Les gens de la soirée mousse, si vous les séchez, pouvaient passer dans la salle lounge. Ambiance carpette, musique pénible, on attendait la mort. Il y a toujours des ponts, il y a toujours des ponts, comme on dit à Millau. Là, Charlotte Gainsbourg ne dit pas qu'il faut annexer Gaza, tuer tout le monde, tout raser et mettre un Center Park à la place. Elle reste de gauche, c'est une actrice. Elle dit que selon elle, il y avait des préalables à la reconnaissance de la Palestine. Mais sur les réseaux, ça se transforme en accusation de fascisme, nazi, le truc habituel. Bref, elle va jouer le rôle de Gisèle Halimi qui s'inscrivait, alors je lis dans la presse, dans la défense de la cause palestinienne. Ce qui, selon les rédacteurs de cette pétition, eh bien, ne colle pas. Alors que c'était des déclaration en plus de l'époque, qu'aurait-elle dit aujourd'hui ? On ne sait même pas. D'où la question. Doit-on porter les mêmes valeurs que le héros qu'on incarne lorsqu'on est comédien ? Je crois que j'avais jamais fait une chronique aussi philosophique. Ça rattrape le truc de l'homme invisible qui souille ses draps. Comme quoi, voyez Patrick Sébastien, une réflexion de fond derrière chaque chanson autour du pubis, et bien il aurait peut-être sa couverture de Télérama. Alors, mon avis sur le sujet ? Non, ce serait effrayant. Ça voudrait dire que tous les acteurs qui ont incarné Adolf Hitler auraient en eux un fond de nazisme et que Michael Keaton, qui a joué le premier Batman, dormirait accroché à une poutre comme un idiot à l'envers avec les tétons dans le cou. Mais vous faites jouer Gisèle Halimi à un masculiniste qui porte sur l'omoplate un tatouage avec écrit « Bobonne à la maison, prépare-moi des steaks ». Ok, on se dit c'est un peu aux antipodes, mais là, je crois qu'il faut un peu de nuance. La nuance, comment expliquer ? C'est cette notion qu'il y avait avant et qui enrichissait la nature des débats. Il n'y avait pas soit les fachos, soit les gauchos. On ne disait pas à l'autre en préambule « va crever ta race », mais je voudrais soulever un contre-argument. Je ne sais pas si ce temps-là existait un jour, mais j'ai l'impression qu'on est tous devenus très binaires. Et alors, messieurs Briançon et Arditi, je ne sais pas si vous comptiez incarner le rôle de Gisèle Halimi. Moi, je vous vois bien, mais il faut savoir que je suis complètement détraqué. Hein, ne jamais suivre mes conseils, comme je l'ai dit à Oldelaf après lui avoir conseillé de chanter Yaraya de Rachita au congrès des identitaires sartois, ce qui lui a valu 10 jours d'ITT. Parce qu'il faut savoir que Virginie Efira, qui est ténébreuse et en même temps sympathique, c'est très rare, est elle aussi annoncée en Gisèle Halimi au cinéma. Et en février dernier, il y a eu polémique, plein de débats sur le fait qu'une comédienne blanche, blonde et belge invisibilise l'identité juive et tunisienne de Madame Halimi. Ça s'appelle le whitewashing. C'est ce qui m'a poussé à refuser le rôle de Léopold Sédar Senghor que je devais interpréter. Genghis Khan aussi, ça m'est passé sous le nez. Prince, hein, le chirurgien esthétique qui a réduit mes hanches à la scie à bois pour que ça colle au niveau des mouvements de bassin, était déçu pour moi. En fait, en tant que blanc, avec le physique que j'ai, je peux juste faire le biopic de Bruno Retailleau. Bref, la chose est complexe parce que plus la personne qu'on joue est iconique, plus la société veut que le comédien colle avec ce qu'a dit cette personne. Pour Simone Veil, c'était facile, tout le monde est pour l'avortement, mais Gisèle Halimi, ça bloque. Mon conseil à Charlotte Gainsbourg, maintenant qu'on ne boycotte plus Disney, on est d'accord, c'est de jouer le rôle de Tic, du duo Tic et Tac. Hein, puisqu'a priori, madame, personne ne va vous demander si vous aimez les noisettes avant de valider le projet. Voilà, chronique à la fois intéressante et vulgaire. Engagé, oui. On finit sur les noisettes de Tic et Tac. Je crois que Pierre Arditi peut se retourner vers moi et me dire, avec son regard qui pétille et que j'aime tant,
c'est un désastre.
Tanguy Vacheron avec un guest. Il est où ?
Malheureusement, il sera tout seul sur scène le 11 octobre à Vars, en Isère.
Le seul en scène, qu'en dites-vous, Pierre Arditi ? C'est un exercice particulier pour un acteur.
Ça m'est arrivé avec un texte que j'avais appris, Le deuil des roses d'André-Pierre de Mandiargues, et sinon, j'ai fait des lectures, comme ça, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Oui, c'est un peu étrange, on se sent un peu orphelin quand même. Jouer, c'est tout de même jouer avec quelqu'un d'autre.
Partager, oui.
On partage avec le public, mais enfin, bon, je ne suis pas fanatique, je préfère jouer que Nicolas Briançon que sans lui.
Nicolas, voilà. Vous avez beaucoup mis en scène, des seuls en scène, mais l'idée même de le faire vous,
Pardon de ce temps.
C'est pas grave.
J'y pense.
Il faut trouver le texte.
Ok, ouais. Le texte, vous l'avez trouvé en tout cas quand il est signé Alexis Macquart. Ça s'appelle « Je me souviendrai de presque tout » avec Pierre Arditi, Nicolas Briançon et Miguel van der Linden. Mise en scène par Julien Boisselier, c'est au Théâtre Montparnasse. D'autres événements culturels, Leïla.
Absolument, une autobiographie vient de sortir. Elle est signée d'un sportif, que vous connaissez tous bien, un Suédois, icône des années 70.
Borg.
Absolument, Björn Borg sort son autobiographie et il y fait des révélations importantes, notamment comment il est devenu addict à la cocaïne. Sa première prise de cocaïne, c'était dans un club mythique, le Studio 54 à New York. Pourquoi vous montrez Pierre Arditi?
Parce que tu vas en parler aussi un peu.
Non, mais je ne sais pas pourquoi. Effectivement, tu me montres du pouce comme si
c'est gênant. C'est gênant. Ce moment est gênant.
Comme si vous, la première prise de cocaïne de Björn Borg, c'était jouez. Avec Pierre Arditi.
On peut faire des trucs à la radio. Vous n'êtes pas obligé d'en parler.
Ah, soit vous jouez au tennis, soit vous jouez au coke. Non, mais il faut dire la vérité.
Je t'ai dit que c'était
une pince de teneur. C'est incroyable.
Tout ce que vous faites est répertorié.
Bien sûr.
Remettez ses chemises immédiatement.
C'est gênant. On est au début des années 80. Il va dans ce club à New York. Et puis là, on lui propose de la drogue, il en prend et commence progressivement une consommation de plus en plus régulière. Il est déjà hyper connu à cette époque-là, il a déjà plusieurs victoires à Roland-Garros à son actif, il est en train d'en gagner encore d'autres. Et il va y avoir plusieurs années au point de se retrouver à faire des malaises parce qu'il fait une consommation qui est assez excessive. Il raconte ça dans un bouquin, il parle aussi d'un cancer qui a été détecté à temps et contre lequel il lutte et qu'il surveille activement. Est-ce que vous avez des tempéraments d'addict, vous, dans vos vies? Est-ce que vous avez déjà eu des pratiques? Je ne parle pas de drogue, parce que l'addiction, elle peut être à plein de choses. Je crois, vous, Pierre Arditi, que vous avez un temps été addict au jeu.
Oui, il y a longtemps.
Ouais. Ça se matérialisait comment? Comment ça a commencé?
Comment ça commence? Par hasard. Deux amis qui m'ont emmené dans un cercle de jeu, comme ça. Et comme toujours dans ces cas-là, la première fois, on gagne. Et donc, on se dit, c'est rudement facile de gagner au jeu. Et donc, on y retourne.
Ouais, c'est ça.
Là, on commence à perdre. Et alors, après, ça prend le pas sur tout le reste. Donc, j'ai fini par ne plus aller travailler, j'ai fini par me perdre. J'ai été sauvé par mon narcissisme, oui, parce qu'un jour je me suis regardé dans une glace, alors que j'avais perdu le fric des vacances de ma première femme et de mon fils, et je me suis retrouvé seul, je devais les rejoindre, je suis passé devant une glace, je me suis regardé, j'étais défiguré, un peu comme Dorian Gray, quoi. Et je me suis dit, bon là maintenant, ou tu te tires une balle dans la tête, ou tu arrêtes. J'ai décidé d'arrêter, j'ai mis 10 ans pour rembourser ce que j'avais perdu, et je me suis sauvé encore une fois, parce que mon visage ne me plaisait pas.
Qu'est-ce que ça vous procurait, le jeu, physiquement? Parce que là, je parle à un acteur, donc j'imagine qu'il y a un ressenti...
Ça me procurait une sorte d'adrénaline malsaine. Hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est très curieux, parce que quand je gagnais, c'était pas de l'argent, et je dépensais ça tout de suite en achetant des cadeaux à ma femme, aux amis, trucs comme ça. Et quand je perdais, alors, j'avais ce que je voulais. Mm-hmm. Je me punissais moi-même de ce chancre. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais tout d'un coup cette haine de ce que j'étais incapable d'arrêter. Voilà. Bon, donc ça a été ça. Maintenant, il y a...
C'est remplacé par autre chose ?
Non. Oui.
Oui.
La vie. Je suis totalement
addict
de l'existence, a fortiori dans la mesure où je suis en train d'arriver au terme, et par conséquent, j'en profite, je me bourre la gueule avec ça, en attendant de ne plus me bourrer la gueule avec quoi que ce soit.
Profiter de la vie, ça veut dire avoir peur de la mort ?
Non, j'ai pas peur de la mort, ça m'emmerde. Voilà. Ou comme dirait Marcel Proust, ça m'embête. J'ai pas envie de quitter tout ça, et j'ai surtout pas envie de savoir que vous allez continuer, alors je ne suis plus là.
Ça, voilà. Et vous, Nicolas, il y a un tempérament d'addict?
Moi, je pense que j'ai une nature extrêmement addictive, mais je suis tellement terrifié d'avoir une addiction que j'arrête. Par exemple, j'ai fumé dans ma vie et j'ai arrêté du jour au lendemain à un moment en me disant non, mais tu peux pas dépendre de ça. J'ai pas d'addiction à l'alcool. Non, j'ai une addiction à mon travail. Ça, je pense qu'on peut. On peut le dire, j'ai une addiction.
Au point d'être malheureux si vous en manquez, au point d'avoir même
mais
accepté...
Mais j'en manque pas parce que je peux pas en manquer. Si...
On peut toujours
en manquer. Non, mais je peux pas en manquer parce que je me crée des... Moi, j'ai pas eu, mon téléphone n'a pas sonné régulièrement tout au long de ma carrière. Donc, les projets, quand j'en avais pas, j'en créais, j'en faisais, j'en suscitais.
Alors, est-ce que vous avez accepté des projets par peur de manquer, oh, oui, avec des regrets voilà. Après en disant j'aurais pas
dû. Ma filmographie en témoigne. J'ai quand même un paquet de nanars dans lesquels j'ai tourné parce que on est tous pareils, on a des impôts, on a des loyers à payer, on a des enfants.
Non, quoi. Si, il y en a un qui est culte, Meurtre à Saint-Tropez, non, ça s'appelait pas comme ça.
Non, non, j'ai pas, on va pas balancer des noms. Non, ça n'a pas de sens de balancer, c'est cruel de balancer des noms.
Bah, moi je peux.
Non,
il y en avait un qui était.
J'ai fait quelques très bons films, il faut aussi le dire.
Je ne dis pas le contraire.
On fera ça avec le projet de Nagui après.
Non, mais je vais le retrouver. En tout cas, pour les projets qui...
Moi, personnellement, je ne donnerai aucun nom, mais...
Moi, je peux en donner au moins des aventures d'Alice et Chloé.
Oui.
Voilà.
Ah, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
C'est un truc érotique. Ah non,
c'était Mystère à Saint-Tropez, pas Meurtre à Saint-Tropez. Ça, c'est un.
Ah oui, je me souviens de ce film.
Qui êtes-vous ? Comment vous parlez ? Comme un boule.
Au printemps, vous partez en tournée avec. Au printemps, vous partez en tournée avec Le Prix, une pièce de Cyril Gély, c'est ça, avec Ludmilla Michael, que vous avez déjà joué.
Ah, vous me parlez de moi, pardon.
De l'avenir,
on va partir en tournée, oui, avec cette pièce-là. Et on s'est arrangé avec le Théâtre Montparnasse.
Et vous avez là aussi un planning extrêmement chargé. Il y a Maudit, que vous avez tourné pour France 3. Il y a Le Sang de la Vigne, vous aviez interprété.
On va peut-être en faire une petite.
Exactement.
Ressucée, oui.
Très bien. Puis, un petit air de bonheur. Ça, c'est une fiction également. C'est une comédie.
C'est une comédie. Une comédie d'où sa mère avec mon copain Laurent Gérard qui m'imite effectivement très bien.
Très bien. Nicolas, toujours à l'affiche d'Une place pour Pierrot, film dont on a parlé à ce micro d'Hélène Mély, qui est absolument formidable, qui est touchant, émouvant, intelligent. Vous partagez l'affiche notamment avec François-Vincent Tellier que vous évoquiez tout à l'heure.
Mon vieux copain.
Aussi. Bistromania. Une série qui retrace la révolution culinaire des années 2000, qui est en intégralité sur France.tv.
Qui est saluée par la critique.
Oui, qui est formidable.
Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ariodante, ça sera en décembre ?
Oui, Ariodante, qui est un opéra de Handel que je monte à l'Opéra Royal de Versailles en décembre. Oui, avec une très belle distribution.
Des excuses à présenter également.
Absolument, désolé pour tous nos auditeurs qui se sont dit en écoutant l'émission « Waouh, cette pièce, quelle histoire originale !» Arditi et Briançon sont sûrement formidables. Ouais, c'est quand même un peu leur vie, ces deux personnages. Désolé, mais un homme au bout du rouleau qui a lâché l'arôme qui vit au milieu des pots de yaourt, c'est vous, Nicolas. J'ai eu de nombreux témoignages. En revanche, donner le rôle d'un comédien star mégalo méchant qui jubile quand il est désagréable avec son entourage, donner ce rôle à Pierre Arditi, mais où ont-ils été chercher tout ça ? C'est pas possible. C'est tellement éloigné de vous, Pierre, mais tellement éloigné.
Merci Pierre, merci Nicolas, merci
à vous
mille
merci
fois
vous,
de nous faire aimer encore plus tout. Le théâtre.
Merci
et bravo.
La peste. Merci.
Demain, nous recevons Fabrice Caro pour parler de son nouveau roman.